Père Ludovic, frère, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
Merci d'être encore une fois et sur Radio Maria France.
Un grand plaisir de vous retrouver, merci.
Nous vous retrouvons dans un contexte particulier et merci d'avoir répondu à notre appel. Nous avons 25 bonnes minutes à vivre ensemble pour que vous puissiez présenter ou représenter. Peut-être il existe encore quelques personnes qui ne connaissent pas encore le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Peut-être rappeler un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé. Voilà, je vous laisse la parole.
Très bien.
Merci,
Bah
Père.
alors, je ne sais pas si c'est très radiophonique, mais je vais vous présenter ce que je vois depuis mon bureau, là où j'ai une belle vue sur les montagnes. Donc, on est ici dans les Hautes-Alpes, en moyenne montagne, puisque le sanctuaire est tout juste à 900 mètres d'altitude. Et autour, il y a des beaux sommets qui dépassent les 2000 à 3000 mètres. Là, aujourd'hui, le ciel est magnifiquement bleu, et puis les sommets sont déjà un peu enneigés. C'est vraiment un paysage magnifique. Et de fait, ce cadre magnifique vient porter un message qui lui aussi est sublime, hein. Ces 54 années de rencontre d'une petite bergère, Benoît Trancurel, une famille lettrée, très modeste, qui va être visitée par la belle dame, c'est le nom qu'elle va lui donner. Vous voyez que ça sonne juste aussi avec la beauté des montagnes. Cette belle dame qui va venir à la fois convertir le cœur de cette bergère et à travers elle transmettre un beau message de conversion, de réconciliation, puisque la mission qui va être confiée à Benoît, elle a 17 ans à ce moment-là, c'est de construire, si on peut dire, de faire construire un sanctuaire à cet endroit et d'y accueillir les pèlerins, notamment pour qu'ils puissent se confesser. Ce qui est intéressant avec Notre-Dame-du-Lot, c'est donc qu'on est dans un message inscrit dans le temps, hein. On n'en fait pas un record de dire que ce sont les plus longues apparitions du monde officiellement reconnues, mais c'est quand même le cas, puisque c'est pendant 54 années que la Vierge Marie va venir visiter la bergère. Elle a donc 17 ans aux premières apparitions. Elle en a jusqu'à la fin de sa vie à 71 ans. Donc elle a un compagnonnage de la Vierge Marie à toutes les étapes de sa vie. Et peut-être que ça peut particulièrement nous rejoindre en cette période de confinement où on se rend compte que le rapport au temps se trouve aussi pas mal bouleversé, à savoir qu'il est difficile pour nous de faire des projets, il est difficile pour nous d'accepter la contrainte de ce temps où les choses ne se passent pas comme on voudrait, on n'est pas libre de tous nos faits et gestes. Je trouve que c'est intéressant de voir que le ciel vient s'inscrire dans ce temps pour y apporter à la fois la certitude d'une présence au quotidien et pour l'inscrire dans une dynamique en fait de durée. Voilà. Je pense à cet égard que ça peut être intéressant pour vous, frères et sœurs auditeurs, de regarder un peu plus ce message de Notre-Dame-du-Lot. Il y a plein de moyens, notamment par Internet, pour pouvoir y goûter, je dirais, une force, une espérance, une manière de pas tomber dans cette sinistrose qu'on peut entendre un peu de ci, de là, en disant oh, encore le confinement, puis jusque quand. Voilà. Je crois qu'on a autre chose à vivre et à apporter comme espérance en tant que chrétien, et la Vierge Marie est là pour nous y guider.
Père, pendant ces 54 années, à quelle fréquence la Vierge Marie venait justement prendre la main de Benoît
Ah,
Trancurel
c'est
et
vraiment
l'instruire?
intéressant parce qu'en fait, là aussi, on a quelque chose de la pédagogie mariale qui nous est révélée. À savoir que dans les premiers mois, la Vierge Marie vient tous les jours. Il s'agit pour elle de créer un climat de confiance avec la bergère, qui n'était pas farouche, hein, mais qui sans doute avait besoin de sentir dans cette belle dame qui lui souriait un ciel qui se penche vers elle pour l'encourager, pour l'accompagner et non pas pour la juger. Benoît avait été éduqué dans un contexte janséniste très présent à l'époque, où on voyait plus Dieu comme un juge en face de nous que comme un ami, un compagnon nous guidant et nous attendant au ciel, voyez. Et donc, à cet égard, il était important qu'au début, les rencontres soient quotidiennes. Mais une fois que la Vierge Marie confie à Benoît cette mission dont j'ai parlé il y a quelques instants, elle lui fait confiance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas derrière son épaule tous les jours pour lui dire bon, moi j'aurais pas fait comme ça, ou vous êtes sûr de ce que vous faites. Non, elle vient faire le point régulièrement. Et donc on est sur des apparitions à peu près tous les 2 mois qui vont s'étaler sur les 54 ans. C'est pour ça qu'on peut compter, et ça on a les manuscrits du Lot, donc on a une bonne source dans laquelle on a les événements, et on peut compter à peu près 400 visites de la Vierge Marie auprès de la bergère. Vous voyez plutôt comme une accompagnatrice spirituelle que comme quelqu'un qui viendrait très souvent lui donner des messages.
C'est ça. Est-ce que vous pouvez rappeler dans quel, en quel, de quelle année à quelle année nous étions
Oui, alors on est vraiment sur l'époque du roi Louis XIV, puisque Benoît Trancurel naît 9 ans après Louis XIV, elle décède 3 ans après Louis XIV, donc on est sur l'époque du roi Soleil. Benoît naît en 1647, comme Marguerite Marie à la Coque. J'aime bien voir une sorte de parrainage entre ces deux femmes, hein, Marguerite Marie à Paray-le-Monial ayant la révélation du cœur de Jésus, et Benoît recevant au lot la mission de conduire à ce cœur par le cœur immaculé de Marie. Donc on a vraiment un bel élan commun dans ces deux femmes qui sont nées donc la même année, 1647. Et Benoît décède en 1718. Donc 71 ans, c'est un bon âge pour l'époque, hein. Et on est donc sur cette époque de Louis XIV, sur ce grand siècle aussi en France, hein, avec de grandes figures, Saint Jean-Eudes, Saint Vincent de Paul, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui tous finalement vont dans le sens de cet appel à accueillir la miséricorde de Dieu, l'amour surabondant du Seigneur et la place particulière qu'a le cœur de Marie à cet égard.
Et justement, vous parliez, vous avez abordé cette mission de faire construire alors un sanctuaire, une église au début. Dans quelle est cette mission que la belle dame confie à Benoît Ranquerel?
Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand elle lui demande la construction d'une église, Benoît, avec son bon sens de paysanne, dit désolé, belle dame, on n'a pas d'argent, faudra vous contenter de cette petite chapelle, puisqu'elle lui apparaît dans une petite chapelle. Et Marie répond, ne vous inquiétez pas, quand il faudra, on manquera de rien. Et donc le projet marial, c'est vraiment d'offrir aux pèlerins l'occasion de se poser un peu. Hein, là, c'est un vocabulaire d'aujourd'hui, on ne trouve pas il y a 350 ans, mais c'est quand même ça l'idée, que les pèlerins puissent se poser de manière à pouvoir déposer leur complicité avec le mal, et puis derrière cela, tout ce qui leur pèse sur les épaules, dans le cœur de Jésus. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est d'abord que c'est un sanctuaire marial, mais très christique, comme tout sanctuaire marial qui se respecte, hein, à savoir que les messages de Marie vont pas mal concerner, par exemple, le mystère de l'Eucharistie. Une fois, Marie va dire à Benoît, écoutez Benoît, vous allez me prier un peu moins moi et un peu plus mon fils. Donc elle équilibre la prière de Benoît pour que ce soit une prière par Marie, mais qui conduise au Christ. Et puis, il y a également cinq apparitions du crucifié à Benoît, qui vont être au cœur de sa vie mystique et qui vont bien rappeler, si besoin était, que toute démarche vers Marie vise son fils. Hein. C'est une évidence, mais il y a toujours besoin de bien nous rappeler que nous visons le Christ et que nous plongeons dans sa miséricorde à lui. Donc en fait, on est dans un sanctuaire marial, christique, on est dans un lieu où Marie veut qu'on se rende. Et de fait, Marie elle-même dit un endroit dont tous les chemins d'accès sont compliqués. De fait, venir au Lot, aujourd'hui il y a les routes, hein, c'est plus compliqué, mais il y a quand même quelque chose d'un déplacement nécessaire qui prend des fois du temps et qui interroge en fait nos disponibilités à des déplacements intérieurs. Et puis le fait de venir comme ça un peu à l'écart dans cette belle moyenne montagne des Hautes-Alpes, ça permet aussi de prendre de la hauteur avec le quotidien. Et ça permet de venir déposer les choses. Ce qui est intéressant, c'est que quand la Vierge Marie demande la construction d'une église, elle demande aussi la présence de prêtres à demeure, donc une maison pour des prêtres, afin qu'ils soient là pour accueillir les gens. Donc il y a toute cette notion d'accueil, mais on va vite se rendre compte que cet accueil prend du temps. À savoir que les gens qui montent au Lot n'y restent pas une heure, mais ils y restent plusieurs jours. En tout cas, ils campent sur place à l'époque, hein, pour pouvoir laisser cette expérience spirituelle du Lot pouvoir véritablement habiter leur cœur. Et ça, c'est quelque chose qui reste très présent. Nous avons aujourd'hui une hôtellerie avec 470 lits, même si bien sûr elle est fermée actuellement avec le confinement. Mais donc on a une hôtellerie sur place pour permettre aux pèlerins de faire cette démarche, de rester quelques jours. Et de fait, en restant quelques jours, au moins en passant une nuit, il y a ce consentement, au sens où c'est l'œuvre de la grâce et qu'il faut y dire oui, ce consentement à ce que le Seigneur vienne décharger ce qui pèse sur nos épaules et que Marie soit bien là pour qu'on décharge tout à ses pieds et qu'on vive à ce moment-là une vraie démarche à la fois de consolation, de réconciliation et de conversion.
Justement, Père, peut-être avant de plonger un petit peu davantage sur les messages et leur actualité, vous avez parlé de l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question, Si jamais on déconfine, j'aimerais bien aller me poser justement quelques jours, prendre de la hauteur, faire un peu le point avec des prêtres pas loin. Est-ce que c'est possible en cette période, et en tout cas en cette période spéciale un peu de confinement, mais à l'approche de Noël, du Nouvel An, est-ce que vous auriez des choses à dire là-dessus?
Alors, je vous répondrai, je ne suis pas le président de la République, au sens où, par rapport aux échéances, nul ne connaît ni le jour ni l'heure du déconfinement et puis aussi du déconfinement des hôtelleries. Hein, on est sur des grands points d'interrogation par rapport à cela. On espère que dans quelques jours, on en saura davantage. Ce qui est clair pour nous, comme ça a été le cas à la fin du premier confinement, dès qu'on a déconfiné, on a accueilli. Dans la vive conscience que le temps de confinement, avec tout ce qu'il peut avoir d'enfermé nécessairement, d'oppressif aussi, et puis d'interrogation sur le sens de la vie ou sur le sens du monde, a besoin de lieux comme le Lot pour venir déposer. Et ça a été très beau de voir comment, à partir enfin, du déconfinement, nous avons eu l'opportunité de pouvoir accueillir des pèlerins en respectant toutes les règles sanitaires. L'avantage, c'est qu'on a des grands lieux. Donc ça permet vraiment de le faire au Lot et de permettre aux gens de véritablement souffler. Donc évidemment que nous espérons être ouverts au plus vite. Évidemment, nous espérons être ouverts pour la période de Noël-Nouvel An, qui est aussi une grande période au sanctuaire du Lot, parce que ça permet à la fois d'accueillir des gens qui seraient seuls pendant les fêtes et qui se retrouvent ici dans une vraie dimension familiale, hein, parce que le Lot est comme une sorte de petit village où on est les uns avec les autres et on vit vraiment quelque chose de communautaire qui est fort. Et puis des personnes qui cherchent une dimension plus profonde aux fêtes. Et peut-être que là, justement, le confinement est un appel à aller à l'essentiel et donnera envie à beaucoup d'entre nous de vivre des fêtes qui ne soient pas trop frivoles et qui soient des fêtes à la fois de profondeur et de sobriété. Et je crois que des lieux comme le Lot le proposent éminemment. Alors bien sûr, pour l'instant, notre hôtellerie est fermée, mais notre sanctuaire n'est pas fermé, à savoir
C'est
que
ça.
d'une part, nous avons une vraie présence auprès des pèlerins virtuels,
Oui.
mais virtuels mais réels, hein. Nous avons 8 offices que nous proposons en direct sur notre chaîne YouTube et nous avons chaque semaine une retraite spirituelle en ligne que nous proposons. Donc là, on
D'accord.
a commencé la troisième de ces retraites spirituelles, laissant à chacun la disponibilité de participer à tout ou partie de ces propositions. Donc on a déjà
D'accord.
cette forme de présence. On a une présence téléphonique aussi. On a une ligne téléphonique pour les gens qui ont besoin de parler. Ils peuvent appeler notre sanctuaire et puis on est là pour les écouter. L'équipe des prêtres, on est 7 prêtres et l'équipe des sœurs, il y a 8 sœurs, on est mobilisés pour cela. Et nous avons également une présence pour les personnes qui montent, puisqu'il est possible, hein, en respectant bien sûr les déplacements autorisés, mais récemment il a été dit qu'on pouvait se déplacer pour raisons spirituelles. Et donc il est possible à des gens de venir au sanctuaire du Lot pour les confessions. Les prêtres sont en permanence de confession, comme lorsque le sanctuaire est pleinement ouvert. Et puis l'après-midi, on a aussi la basilique qui est ouverte. Je dis l'après-midi parce que le reste du temps, on a des offices qui eux ne peuvent pas être avec assemblée puisqu'on n'a pas le droit de rassembler pour des prières. Voilà. Donc on a une belle présence qui est déjà réelle, je dirais, ces jours-ci. Et je vous encourage, frères et sœurs auditeurs, à pouvoir connaître un peu ce qui se vit au Lot, hein, ne serait-ce qu'à travers notre site internet de
Oui,
Notre-Dame du
voilà.
Lot. Vous trouvez un certain nombre de ces propositions. Notre idée, c'est à la fois de vous apporter du soutien et de vivre quelque chose de communautaire. Je crois que c'est vraiment important pour cette période de confinement.
Donc on tape hein, sur Google hein, Sanctuaire
Oui, c'est ça,
Notre-Dame
hein,
du Lot, on
oui.
tombe sur votre site, on y arrive,
Exactement.
avec donc retraite spirituelle en ligne et
Voilà.
sur votre chaîne YouTube, là du coup.
C'est ça, et sur la chaîne YouTube, on trouve tous les offices qu'on peut suivre en direct. Donc encore une fois, il y en a 8 par jour. Et puis l'enseignement auquel on peut se connecter quand on veut, hein, c'est ça qui est bien. On peut même retrouver les autres, parce que donc on est déjà une vingtaine d'enseignements qu'on a proposés. Et c'est sur le thème de l'espérance ce mois-ci, hein. On a appelé ce grand mois de novembre le Pèlespérance, une sorte de pèlerinage d'espérance qu'on fait à domicile, mais qui peut quand même nous déplacer. Voilà. Je crois que c'est ça la force de notre foi, c'est qu'on reconnaît que le Seigneur est tellement au milieu de nous et avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps que le pèlerinage, on peut le faire intérieurement et que justement ce mois de novembre, entre la fête de la Toussaint et l'entrée en avant, avec toutes ces lectures qu'on entend ces jours-ci, ces lectures de l'Apocalypse, ces lectures qui nous appellent à veiller. On est vraiment dans une ambiance qui appelle à faire de ce mois-ci un vrai pèlerinage d'espérance. D'où ce terme de pèlespérance qu'on a donné pour ce mois-ci.
Et quel est le numéro de téléphone, Père, pour justement, si on a envie de se confier à
Alors,
quelqu'un?
C'est une bonne question, mais ça, justement, je l'ai plus sous les yeux.
D'accord.
Vous savez que j'avais mis de côté en me disant, ah, je suis sûr que le Père Mathieu va me poser la question. Et puis, j'ai eu un petit problème de téléphone, j'ai dû venir à un autre téléphone, et là, paf, évidemment,
bon.
Je ne l'ai pas sous les yeux.
Donc, c'est sur le site, c'est sur le site.
En tout cas, il y a une ligne habituelle, hein, je peux la donner, hein, c'est, après peut-être que ça renverra sur une autre, mais peu importe. C'est le 04 92 50
oui.
95 51. 04 92 50 95 51.
D'accord.
Voilà.
Merci Père pour les quelques minutes qui nous restent. Est-ce que peut-être vous pourriez parler un petit peu des messages et de leur actualité, qu'on puisse se connecter à vous ou pas, comment se laisser rejoindre là où on est par ce que nous dit la Vierge Marie à travers voilà, tout ce qui s'y passe et tout ce qu'elle donne.
Je crois que c'est vraiment important pour ce que nous vivons actuellement. Le premier message de la Vierge du Lot, quand elle apparaît à Benoît, premier message, c'est-à-dire en fait tous les deux premiers mois d'apparition quotidienne, la belle dame ne dit pas un mot. On pourrait dire, bah donc il n'y a pas de message. Si, elle sourit. Mais... Donc son message, c'est son sourire. Et je crois que dans la période où nous sommes, à la fois parce que les nuits rallongent, parce qu'on n'a pas forcément un grand moral avec tout ce que l'on vit, avec tout ce que l'on entend, il me semble que c'est vraiment précieux d'entendre à travers Marie, Marie qui n'est pas Dieu, mais qui est pure transparence à Dieu, d'entendre le Seigneur qui nous sourit, voyez, enfin, de percevoir que le Seigneur nous sourit. Moi, j'encourage celles et ceux d'entre nous qui sont un peu dans la morosité, voire même dans la sinistrose actuellement, bah de se dire « le Seigneur me sourit ». De commencer ainsi la journée et de terminer ainsi la journée en se laissant sourire, pour ainsi dire, par le ciel. C'est vraiment le premier grand message du lot, un ciel qui nous sourit et ça apporte une belle et grande lumière en fait à nos vies, même à travers leurs obscurités et leurs brouillards. Ça, c'est le premier grand message. Ouais. Le deuxième grand message, je disais tout à l'heure, le sanctuaire des plus longues apparitions du monde, c'est l'inscription dans le temps. Et là aussi, ça invite à ne pas se laisser prendre par le découragement. Souvent, on peut décourager de ce que l'on est ou de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas assez parce qu'on n'inscrit pas suffisamment dans le temps. Et le grand message du lot, qui est un message de miséricorde, hein, c'est de nous dire, mais le Seigneur a du temps pour nous, il prend le temps avec nous, il inscrit... toute notre vie dans le temps, et il nous regarde pas seulement comme nous sommes aujourd'hui, mais comme nous pouvons devenir. Et ça donne une grande espérance. Voyez. Le Seigneur, quand il nous regarde, il ne voit pas simplement les êtres pleins de contradictions que nous pouvons être, mais il voit aussi les saints que nous pouvons devenir. Et ce regard de Dieu sur nous est un regard convertissant, hein, par la grâce. Je crois qu'on a vraiment aussi besoin de ça, de se dire, non, je ne suis pas enfermé dans mes péchés, à faire... très rarement un pas en avant dans ma vie spirituelle. Non, il y a le Seigneur qui me guide et à cet égard, le fait qu'il me regarde comme ce que je peux devenir, un saint, fait que je deviens davantage saint. Ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de profondément encourageant. L'autre appel du message du lot, c'est un appel à se désencombrer. Et peut-être que là aussi, le temps de confinement peut particulièrement y aider. Hein, nous encombrer des fois de soucis qui n'en sont pas vraiment, nous encombrer de biens matériels qui ne sont pas vraiment satisfaisants, nous encombrer même d'un regard sur nous-mêmes qui n'est pas ajusté et qui a besoin d'être un peu moins regard nombriliste pour être un peu plus un regard vers le ciel. Et c'est là que s'inscrit en fait la démarche de confession, de conversion du sanctuaire du lot pour, je dirais, convertir d'abord notre manière de nous convertir. Je veux dire par là, c'est que souvent, on a une conversion un peu nombriliste qui est très centrée sur notre culpabilité de ne pas être à la hauteur. Et voilà qu'on se rend compte, hein, je dirais, c'est toute la belle spiritualité chrétienne autour de la conversion, c'est que quand on fait une démarche de confession, c'est pas pour une démarche de culpabilisation, c'est une démarche de contrition. Autrement dit, on ne se regarde pas le nombril et on ne regarde pas notre passé en disant « je suis nul ». On regarde le Seigneur, son amour pour nous, et on regarde l'avenir qu'il nous offre, et on dit « oui Seigneur, j'ai envie de changer, j'ai envie de m'approcher de toi. Je pense que ça peut être rien que cela une belle démarche pour notre temps de confinement, lâcher la culpabilité mortifère pour entrer dans la contrition qui donne la vie. Et à cet égard, oser faire la vérité sur soi. On parle beaucoup en ce moment de l'absence de pouvoir communier substantiellement à la messe. Je pense qu'on devrait avoir la même douleur de ne pas pouvoir se confesser. Et malheureusement, on n'entend pas beaucoup. Alors, il est vrai que dans beaucoup de lieux, la possibilité de se confesser reste, hein, puisque nos églises sont encore ouvertes et des prêtres sont à disposition. Mais n'empêche, on ne sent pas un grand élan de confession pendant ce temps de confinement. Et je me dis, il y a peut-être là quelque chose à creuser pour chacune et chacun d'entre nous. Oui, l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Mais la confession est également tellement essentielle. Hein. Les pères de l'Église parlaient de la confession comme un second baptême, c'est-à-dire l'importance de cette plongée dans la miséricorde de Dieu pour recevoir de nouveau sa vie pleine et entière, sa vie dans la lumière. Et je crois que là aussi, une vie dans la lumière, nous en avons besoin, à titre personnel, mais aussi pour les autres, quoi. Nous sommes appelés à être lumière pour les autres, hein. Jésus nous le demande abondamment. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Dans ce monde bien obscur actuellement, on a besoin de cette lumière.
Amen, amen. Oui, moi j'aime bien les encombrants, se désencombrer, ça me
oui,
plaît.
Oui, c'est ça. C'est ça, on est toujours bien encombré, hein.
Oui. Merci beaucoup, Père, en tout cas, d'avoir pris ce temps avec nous. Peut-être, avant de, je vous demanderai, je profiterai de votre présence pour vous demander une bénédiction, de bénir nos auditeurs.
Avec grand plaisir.
Et avec peut-être un dernier message de votre part pour ceux et celles qui nous écoutent.
Écoutez, le message, c'est vraiment celui de tenir bon dans l'espérance. Saint-Pierre qui nous dit « Soyez toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Il ne dit pas « quand vous n'êtes pas confiné, quand vous avez le moral, quand votre santé est au mieux ». Non, il dit « toujours prêt ». Voyez, je pense que c'est là que nous sommes vraiment attendus aujourd'hui. Être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et c'est avec cette demande particulière que je vous confie tous au Seigneur par Marie, que vous puissiez laisser, comme Marie, l'Esprit Saint reposer sur vous, qu'il soit pour vous esprit de force, de consolation, de vérité, de lumière, de paix. Voilà, je demande vraiment de tout cœur au Seigneur par Marie de vous bénir, vous, particulièrement ceux d'entre vous qui sont seuls chez eux, particulièrement celles et ceux qui sont malades, particulièrement celles et ceux qui sont un peu dans l'angoisse avec ce que nous traversons actuellement. Voilà, que le Seigneur vous comble de sa paix et de ses bénédictions, qu'il fasse descendre sur vous des torrents de grâce pour que vous puissiez être des beaux et des lumineux témoins de l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Père Ludovic Frère, donc recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot. Merci pour toutes vos paroles. Pleine de réconfort et d'encouragement.
Ben merci à vous de m'avoir accueilli.
Soyez bénis et plein de bénédictions à vous et à tous ceux qui sont autour de vous sur
merci
le sanctuaire.
Merci beaucoup. Au revoir à tous.
À une prochaine fois. Au revoir,
merci.
Merci,
au revoir.